Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, un peintre, Édouard Moïse, artiste néoclassique oublié qui a su peindre la vie juive française du 19e siècle, qui représentait des rabbins, des synagogues, des scènes de rituels, des bénédictions familiales, un mariage ou une circoncision, mais aussi des juifs d'Algérie et quelques avocats en action ou hommes d'église musiciens. Chantre de la tradition juive, il a fait partie de ceux qui ont voulu défendre l'israélitisme, ce franco-judaïsme républicain, ceux qui ont voulu donner une iconographie du judaïsme et représenter l'intemporalité. Avec nous pour en parler, l'arrière-petit-neveu du peintre, Jean Bernheim, auteur du livre qui lui est consacré, et Dominique Jarassé, historien de l'art, qui a préfacé cet ouvrage.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Alors, Jean Bernheim, est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous dire un peu quel genre de personnalité avait votre arrière-grand-oncle et ce qui se disait dans votre famille, ce que vous saviez de lui ?
Mais dans ma famille, c'était un peintre assez oublié, sauf en ce qui concerne les portraits qu'il avait faits de sa famille précisément, ses frères et sœurs et ses descendants les plus proches à l'époque, parce qu'il est décédé tout de même, il faut le rappeler, en 1908. Alors il y a beaucoup de gens de la famille qui ne sont pas à sa connaissance, bien évidemment, mais les membres de ma famille discutaient devant Cécile, Amélie, Louise, en cherchant des ressemblances, des choses comme ça, mais s'intéressaient assez peu à la dimension judaïque du peintre. D'ailleurs, les tableaux, il faut bien le dire, concernant cet aspect-là des choses, n'étaient guère restés dans la famille. Je pense que moi, j'ai connu la guerre, je suis né en 36. Nous avons déménagé pour échapper à ce que vous imaginez. Donc, mes parents et ma grand-mère qui avait épousé un petit neveu d'Édouard Moïse, avait transporté quelques tableaux, mais elle avait conservé essentiellement ceux concernant ses proches. Et les autres, au fond, étaient un domaine inconnu. Non seulement il est peu connu, en tout cas, et je crois rejeté eu égard aux circonstances de l'époque. On ne se promenait pas, on ne se transportait pas de domicile en domicile avec les tableaux de Moïse évoquant le judaïsme.
Alors Dominique Jarassé, peut-être vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'a été la postérité d'Édouard Moïse.
La postérité, il y en a assez peu, vous le voyez bien, puisqu'il y a ces deux facteurs qui pèsent sur son œuvre, hein, c'est-à-dire d'une part un peintre académique. Donc évidemment, au XXe siècle, on oublie les peintres académiques, et même s'il y a des œuvres dans les musées, on les met dans les réserves, et on les néglige totalement. Il y a cet aspect que vient d'évoquer M. Bernheim, qui fait qu'une partie de l'œuvre, pour la reconstituer, et même pour la présenter dans cet ouvrage, nous avons dû parfois recourir à des photos anciennes, des cartes postales, ou des gravures, parce qu'il y a quand même un certain nombre de tableaux qui sont perdus. Alors, la postérité, il n'y en a... On ne peut pas dire qu'il y ait une postérité. En revanche, il est parfaitement représentatif de cet idéal israélite du 19e siècle qu'il a voulu mettre en peinture, comme d'autres le faisaient dans la littérature. Vous savez, les Juifs au 19e siècle intègrent tous les domaines de la société, tous les domaines de la culture, en essayant parfois d'apporter la touche, si vous voulez, le supplément d'âme, dirons-nous, peut-être juive, à la culture française. Et lui le fait dans la peinture, et c'est certainement le peintre qui a été le plus loin, dans une quête vraiment d'expression des valeurs du judaïsme et de l'histoire des juifs en France, parce qu'il est absolument représentatif. Cela va sans dire que ça se combine avec un idéal esthétique, que j'ai qualifié tout à l'heure d'académique, alors qui est bien commode pour exprimer ces valeurs, cette spiritualité, cette tolérance, les liens qu'il y a entre les différentes confessions dans un pays « idéal » entre guillemets comme la France. Mais sur le plan, bien sûr, artistique, c'est dans un langage plastique assez traditionnel qui se trouvera complètement décalé. De plus, Moïse va faire son œuvre, je dirais, de manière assez solitaire, avec le soutien de sa famille, justement, avec quelques achats de l'État. C'est un peintre de salon. Or, tout ce système du salon, de la reconnaissance par le salon, s'écroule, on le sait bien, dès quasiment l'époque de l'impressionnisme, c'est-à-dire les années 1870-1880, et lui va poursuivre jusqu'à sa mort. Au moment où il meurt, il a un tableau au salon, vous voyez, c'est vraiment l'épine dorsale de son œuvre, c'est le salon. En plus, le salon des artistes français, le plus traditionnel. Donc évidemment, il va se trouver très vite décalé, d'où, je dirais, l'absence de descendance. Et si on redécouvre, parce qu'il est indéniable qu'on le redécouvre, il est aussi très présent sur le marché de l'art maintenant, c'est qu'il y a, je dirais, c'est qu'il est porteur de ces valeurs du franco-judaïsme, comme vous disiez tout à l'heure, mais aussi que l'on redécouvre, je crois, avec intérêt, ce type de peintre. Parce qu'on a peut-être un peu moins de préjugés sur « il faut être moderne, il faut être d'avant-garde ». Évidemment, ce n'est pas un peintre d'avant-garde.
Oui, et c'est peut-être ce qui explique aussi ce manque de postérité. C'est-à-dire que les artistes qui ont survécu au XIXe siècle dans la mémoire collective sont des artistes, comme vous le dites, qui étaient dans la modernité, qui cassaient un peu les codes. Et lui, il a essayé de toutes ses forces, tout au long de sa carrière, de s'intégrer le mieux possible dans ses codes, dans ses carcans, dans ce salon qui était conservateur.
Tout à fait. Et il y a là d'ailleurs quelque chose, une adéquation assez intéressante quand on y songe, puisqu'on a d'une part une peinture qui justement se veut traditionnelle, qui choisit ses modèles dans la grande tradition picturale. Et parallèlement, il défend aussi des valeurs que je ne qualifierais pas obligatoirement de conservatisme, mais des valeurs traditionnelles. Parce que le judaïsme est porteur de cette tradition et se trouve en symbiose. Je mets toujours des guillemets autour de tous ces mots-là, parce que c'est un peu le discours d'époque sur la vision un peu idéalisée de cette époque, mais une espèce de symbiose entre les valeurs de la France et bientôt de la France républicaine et le judaïsme, les grandes valeurs transmises depuis Moïse, et qui est Moïse, pas seulement à cause de son nom, mais qui est aussi une figure tutélaire quasiment pour le peintre.
Jean Bernheim, vous avez peut-être quelque chose à ajouter sur ce contexte dans lequel peint votre...
Je crois qu'il avait dans l'idée d'incorporer à sa peinture les valeurs essentielles, les valeurs françaises essentielles. Et son style s'explique peut-être par ce souci de reprendre, à travers le néoclassicisme qui a été le style qui lui a été enseigné à l'école des Beaux-Arts, de reprendre toute une tradition française de classicisme qui permet d'exposer avec une extrême clarté les sujets qu'il évoque, et en même temps de s'insérer dans un passé français évident, représenté par les valeurs classiques que tout le monde connaissait. Mais il est vrai qu'alors du coup il s'est trouvé en décalage avec toutes les recherches modernes de son époque précisément. Ce qui fait qu'il paraît un peu passéiste, me semble-t-il.
Alors effectivement, on peut peut-être essayer de décrire un peu sa peinture. Il y a donc des assemblées d'hommes dans des synagogues ou dans des lieux plus intimes, avec des drapés, une architecture assez classique, un jeu de contre-jour, un jeu d'éclairage. Oui, quelque chose qui est très néoclassique, effectivement, une peinture comme ça.
Professeur
oui, évidemment, mais c'est là peut-être l'originalité, parce qu'il y a une forme d'originalité qui n'est pas plastique tellement, puisqu'au contraire, il utilise les codes de la peinture traditionnelle. Il a des cadres, il a des structures, des compositions qui sont très très traditionnelles. Mais il se trouve que pour lui, c'est un langage grâce auquel il va pouvoir faire passer, parce qu'on est encore en une peinture de messages et d'iconographie. Et son grand souci, c'est de construire une iconographie juive. Ça, c'est absolument indéniable, parce qu'il passe chacune des scènes, chacun des moments même de l'histoire du judaïsme, et surtout du judaïsme français. Faire un tableau en 1865 représentant le grand Sanhédrin, ce moment fondateur du franco-judaïsme sous Napoléon, est absolument typique de son aspiration, si vous voulez, à ce que les juifs de son temps se réfèrent à ce moment dans leur identité, dans la construction de l'identité juive française. Et là, je crois vraiment que ce langage, entre guillemets, académique, est parfaitement adéquat. Il est adéquat aussi parce qu'il est, je dirais, il est une voie vers la spiritualité, les choses très profondes et très fines qu'il faut saisir. Parce que la peinture académique demande à être lue avec des connaissances des codes, avec une connaissance de la tradition. Sinon, on voit une image. Oui, c'est une image, effectivement. Mais par-delà l'image, il y a aussi un homme qui s'exprime, il y a une spiritualité, il y a des valeurs sur lesquelles nous avons déjà insisté et qui sont quand même très présentes. Et c'est ce qu'essaye justement de faire M. Bernheim, c'est d'expliciter, d'aider à la lecture. Parce que la lecture, elle est parfois complexe. Il y a même un aspect, si vous voulez, d'actualité. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va faire un tableau sur un fait actuel. Par exemple, la montée de l'antisémitisme à la fin du XIXe siècle. Elle est présente dans son œuvre. Oui. Mais il va aller chercher une scène médiévale pour exprimer, en fait, le parallèle entre un moment de persécution des Juifs en France ou en Espagne au Moyen-Âge et la montée de l'antisémitisme avec Drummond.
Je pense aussi qu'il y a un souci pédagogique. Il a créé toute une iconographie destinée à faire connaître le judaïsme à l'environnement français. Parce que vous savez que jusqu'à 1791, mais enfin,
non,
c'est pas une date.
Redites-le, dites-le.
Pardon.
En 1791, il faut toujours rappeler ce qui s'est passé. Il faut penser aux quelques-uns qui ne savent pas.
Vous avez tout à fait raison. Mais c'est un décret qui émancipe les juifs, c'est-à-dire qui supprime les juifs en tant qu'État dans l'État et accorde aux juifs les droits individuels des autres citoyens. Il y a une formule célèbre de Clermont-Tonnerre que je n'essaye pas tout à fait de rappeler. Parce que... Bon, mais voilà, alors les juifs étaient à part jusqu'à, disons, la fin du XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, les voilà plongés dans la société, mais ils sont mal connus, ils sont quelquefois rejetés, même Napoléon avait des préjugés assez hostiles à l'égard de cette population, disons, surtout après son retour d'Allemagne, il a traversé l'Alsace, il a reçu des tas de doléances en disant... Bon. Alors, le Moïse a entendu, en montrant des images très positives du judaïsme, corriger ce point de vue. Et il l'a fait en créant constamment, il s'est consacré pendant toute sa carrière, disons, de peintre, à créer des images destinées à faire connaître le judaïsme dans ses aspects les plus positifs.
Et d'ailleurs, cette imagerie est très intéressante parce qu'on la voit décliner ensuite en gravure. Les journaux illustrés du 19e reproduisent assez souvent des œuvres de Moïse. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien que de temps en temps, on dise « Tiens, c'est Pessah, tiens, c'est Shavuot, c'est une fête. » Alors, un journal illustré populaire va faire un article, ou bien c'est Kippour, alors on va décrire Kippour dans telle ou telle synagogue parisienne. Et il n'est pas rare qu'à côté, on mette justement une gravure représentant un tableau de Moïse. Il a vraiment été, avec un ou deux autres peintres, parce qu'il faut signaler aussi que très rares sont les peintres qui ont fait ce travail. En dehors, un petit peu d'Edouard Brandon, un autre artiste juif, alors lui d'origine séfarade, et Alphonse Lévy, qui est peut-être le plus célèbre des trois, il n'y a quasiment personne en France qui ait cette démarche. Alors qu'on va la trouver en Allemagne, avec Oppenheim, on va la trouver en Pologne, enfin on va la trouver un petit peu partout. En France, c'est vraiment Moïse, le porteur de ces valeurs et de ces images, et le créateur finalement d'une imagerie qui va même passer en carte postale. On a retrouvé une carte postale avec la sortie de la Torah par le rabbin, donc c'est un tableau très hiératique qui peut s'envoyer pour le Nouvel An. Vous savez, on envoyait des cartes postales pour Rosh Hashanah avec une inscription, et c'est un tableau de Moïse, parce que c'est juif, parce que ça fait allusion, alors toujours à une forme du judaïsme, comme confession. Il y a l'histoire, mais il y a aussi surtout cette dimension du judaïsme, c'est une confession à l'intérieur, je dirais, de la société française.
Oui, alors peut-être il faut évoquer, effectivement, vous avez parlé donc de ce tableau, le Grand Sanhédrin. Alors, on le dit comme ça, Sanhédrin.
Sanhédrin,
oui. Oui, voilà.
Non, oui, à la française. Oui, attendez, je suis sûr que Moïse devait dire Sanhédrin.
Voilà. Donc voilà qui célèbre donc cette assemblée des notables juifs voulue par Napoléon Ier en 1807. Donc effectivement, c'est là un moment important dans la vie juive du 19e siècle. Et c'est un moment que Édouard Moïse a voulu représenter aussi parce que justement, c'est peut-être le point de départ de ce qu'il veut développer comme idée d'une identité juive républicaine, française, mais qui garde malgré tout ces aspects d'une identité juive préservé. Jean Bernheim, allez-y.
Non. Alors oui, évidemment, c'est un moment fondateur, si vous voulez, de l'identité juive française, ou israélite, justement, d'où le choix de l'emploi de ce mot israélite, qui choque parfois un peu nos contemporains, parce qu'ils n'ont pas cette perspective historique. Vous savez, l'israélitisme, c'est mal vu, en quelque sorte. Vous savez, ils se sont trompés, ils n'ont pas vu venir l'affaire Dreyfus, ils n'ont pas vu venir la Shoah, tous ces malheureux israélites français. C'est évidemment un reproche complètement stupide, et qui ne tient pas compte de l'histoire. L'histoire, c'est un grand moment d'intégration avec ce moment symbolique du Sanhédrin où quand même Napoléon fait l'honneur entre guillemets à une confession longtemps méprisée, minoritaire, ainsi de suite, de faire tout avec un décorum extraordinaire, de réunir une assemblée de notables puis une assemblée de rabbins pour entériner des décisions qui ne sont pas sans ambiguïté parce qu'il s'agit quand même de transformer les juifs justement en israélites. C'est-à-dire qu'ils abandonnent un certain nombre de particularismes, qu'ils abandonnent un certain nombre d'éléments de leur tradition pour s'intégrer à la société à l'identité française et se définir désormais comme français israélite. Eh bien cela, on en a une très intéressante illustration dans ce tableau, mais le destin de ce tableau est significatif. Il est à Nancy, parce que Moïse est un peintre nancéen, donc attaché à cette ville, où beaucoup de ses œuvres se trouvent. Il est à Nancy, mais on a eu un mal fou à le reproduire, ce tableau, parce qu'il est en mauvais état, parce qu'il est très sombre. Et s'il n'y avait que ce tableau, on oserait à peine réhabiliter le peintre, si vous voulez. Mais il est très significatif de ces grandes assemblées, de ces, comme vous disiez tout à l'heure, de ces grands drapés, et d'une certaine manière, de l'image qu'il cherche à donner de dignité. Hein, les Juifs sont entrés dans la société française avec dignité, avec reconnaissance. Et cela, il va le maintenir envers et contre tout, malgré aussi, justement, un peu les difficultés de la fin du 19e, avec Drummond, puis l'affaire Dreyfus, qu'il a traversé, indéniablement.
Oui, voilà. Et alors, on peut se demander, justement, si certains tableaux que vous avez évoqués tout à l'heure sont un petit peu des signes de ce qu'on n'appelait pas encore l'antisémitisme à l'époque. Ces Juifs, donc, malmenés. Il y a cette famille juive insultée, un tableau de 1895, insulté par des truands. On peut remettre ça dans ce contexte-là aussi.
C'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit. Mais c'est là où on s'aperçoit qu'une fois de plus, la peinture académique doit être lue avec des références. Mais les journalistes de l'époque ne se sont pas trompés. Il y en a un qui écrit « Ah, mais il aurait pu mettre la tête d'Edouard Drummond sur le truand en train d'insulter cette famille juive au Moyen-Âge, il faut le rappeler. C'est une scène médiévale. » Vous voyez ? Mais il comprend bien que ce tableau est une réponse, je dirais, au pamphlet donc, de la France juive de 1886 de Drummond. Donc il y a bien un engagement qui n'est plus cette fois seulement sur le plan, je dirais, de l'identité, sur le plan de la spiritualité ou de l'apport du judaïsme aux valeurs humanistes et républicaines, hein, très vite. Il y a aussi, là, la prise de conscience eh bien, d'un moment de nouveau de difficulté pour les Juifs, et il va l'exprimer. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la liberté guidant le peuple sur les barricades, voyez, c'est-à-dire une peinture très expressive et dont on saisit immédiatement le sujet.
Le mot allusif a été employé, parce qu'on on ne parle pas ouvertement. Le langage est comme un peu dissimulé, n'est-ce pas ?
Bah, c'est justement l'attitude
des Juifs. C'est le siècle de la pudeur,
Tout à fait. Oui. Et puis, pour les Juifs français, c'est justement... Et c'est bien pour ça qu'ils ont tellement de mal à s'engager dans l'affaire Dreyfus. C'est qu'ils n'osent pas et ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie de se singulariser, parce que tout d'un coup, c'est eux qui seraient visés alors qu'ils sont français. D'où la grande difficulté à accepter l'idée qu'il pourrait y avoir eu une injustice et que ce soit de l'antisémitisme et qu'il faut donc monter au créneau pour défendre les Juifs. Ça n'est pas dans l'esprit juif français, puisque ils n'ont pas à être défendus. C'est la République qui va les défendre. C'est la justice qui va les défendre, n'est-ce pas ?
Est-ce qu'on peut rapprocher de ce souci, justement, pédagogique, vous l'avez dit tout à l'heure, de créer une iconographie du judaïsme et de montrer un souci d'intégration? Est-ce qu'on peut rapprocher cela de ces tableaux d'avocats, de ces tableaux de religieux, de moines, et de montrer finalement ce qu'il y a de commun dans ces professions intellectuelles, dans cette manière d'étudier la loi, dans cette manière de spiritualité, finalement?
Oui, il a conduit une réflexion sur les religions, parce que il s'est trouvé, Édouard Moïse, avec les Juifs qu'il connaissait, il était sans doute très proche de plusieurs rabbins. Et il a donc conduit une réflexion sur les religions qui était alimentée par des écrits d'origine allemande. Souvent, la référence à Lessing est souvent faite dans cet ouvrage, non sans raison, parce que ce Lessing avait réfléchi beaucoup à cette question de faire vivre ensemble des religions différentes. Nathan le Sage réunit un juif, un chrétien et un musulman, et la réflexion s'est portée sur le fait de savoir, sur le point de savoir comment faire se juxtaposer toutes ces religions. Et il a fait appel à une notion tout à fait considérable et qui est partagée très évidemment par Moïse, la notion d'humanité. Il a admis que les gens ne pouvaient pas vivre une seule religion, qu'il était inconcevable de les confondre les unes avec les autres, mais il a considéré que l'homme était en mesure de vivre sa propre religion, juive, musulmane, chrétienne, en vivant juxtaposé grâce à la mise en œuvre de valeurs humaines, disons, qui étaient à l'origine de ce qu'on appelle la tolérance. C'est une grande notion qui a été introduite, je crois, par cet auteur allemand. Et Moïse partageait complètement ses vues, avant lui d'autres, notamment Mendelssohn, qui a servi, je crois, de modèle à Nathan le Sage. Et voilà. Alors, c'est tout à fait important dans la réflexion de Moïse, et il introduit cette idée de tolérance dans ses tableaux.
Oui, la deuxième idée qui serait peut-être justement le point commun entre les avocats, les moines, les rabbins, c'est cette transmission. L'idée qu'il y a des hommes qui savent, hein, des savants, des gens qui étudient les textes. Il y a énormément de tableaux qui représentent l'étude. La transmission, l'enfant.
Des gens rassemblés autour d'un livre.
Voilà, autour du livre. Ça, c'est absolument central. Et on voit bien, évidemment, la valeur que ça peut avoir dans le cadre de l'œuvre d'un peintre juif, se définissant, se revendiquant comme juif. Donc, cet aspect est très, très important. Or, il le trouve aussi, évidemment, chez les chrétiens, à travers des figures de moines. Il y a aussi une gravure très étonnante, la messe basse. Mais la messe basse, ça ressemble fort à un oratoire, si vous voulez. Évidemment, pas la grand-messe avec tout son décorum, parce que ça, c'est tellement éloigné du judaïsme. Mais la messe basse, le moine, la prière, tous ces éléments-là sont communs. Quant au juge, je crois que ça se passe aussi autour de la parole, de l'échange.
De l'étude de la loi.
Fouiller, de l'étude de la loi. Les textes. Alors cette fois, peut-être avec pas de majuscule à loi, mais vous voyez, évidemment. Et là, c'est assez intéressant. Alors, et sur le dernier point, sur le plan plastique, eh bien, il utilise justement le même langage plastique, c'est-à-dire ces grandes râpées.
Il y a des images presque identiques.
Voilà, dans une discussion avec M. Bernheim, des fois je me moquais un petit peu de Moïse en disant, bon, il adore les drapés, alors il a pris les moines, les juges et les rabbins, vous voyez. Rabbins du 19e, évidemment, c'est-à-dire qui ont des sortes de soutanes tout à fait imposées par Napoléon, justement.
Hein. Mais il y a des raisons plus profondes.
Bien sûr, bien sûr.
Alors peut-être, pour finir, on peut évoquer une autre partie de l'œuvre d'Édouard Moïse, son voyage en Algérie, qui lui fait découvrir un judaïsme oriental qu'on peut penser proche d'un judaïsme des origines et dont il va s'inspirer pour mêler justement dans les tableaux des symboles à la fois séfarades, ashkénazes, du judaïsme en général finalement.
Ça déroute très généralement les gens qui regardent les œuvres de Moïse en disant « Mais alors où est-on ? On voit des lampes dites juives, enfin, et l'ère alémanique mélangée à des tableaux qui représentent des personnages qui ont sur la tête des costumes, enfin qui ont des turbans sur la tête et des costumes évoquant l'Afrique du Nord. Donc c'est très, très déroutant. En réalité, je crois que c'est très intentionnel parce qu'il le fait assez constamment. Et que son idée était au fond, et sans doute, que la diaspora n'a pas séparé les Juifs parce qu'ils se trouvent réunis grâce au texte, à la Torah. Et alors, au fond, la connaissance des Juifs d'Algérie, parce qu'il s'est rendu en Algérie dans les années 55-60, lui a fait comprendre qu'au fond, on n'était pas tellement séparés. Et il le traduit en peinture. Et récemment, il est sorti, il a été vendu un tableau tout à fait remarquable, bien que ce tableau paraisse comme une ébauche en définitive. On voit se rejoindre la Torah dominant le tout. On voit se rejoindre des rabbins ashkénazes et une population manifestement séfarade. C'est un très beau tableau.
Oui. Sur le plan aussi de l'expérience artistique, évidemment, pour lui aussi, c'est une découverte. On sait bien que tous les peintres français qui débarquent en Afrique du Nord, et l'exemple même, c'est Delacroix, sont frappés par la lumière, la couleur. Or, notre peintre très austère, quand même, dans certains de ses tableaux, voire qui ont en plus assez sombre aujourd'hui, va d'abord travailler pastel, et va donner cette série de pastels absolument extraordinaire, très coloré, très sensible.
Beaucoup de bleu, beaucoup de rouge.
Voilà, qu'on ne trouve pas quasiment dans les autres tableaux. Donc cette série sur l'Algérie est vraiment très très belle, mais on voit bien qu'il poursuit ses obsessions, c'est-à-dire qu'il nous représente l'école juive de Miliana, il représente le maître, il représente des scènes, et parmi ces pastels, il y en a un très beau qui reprend un thème auquel il est très attaché, c'est celui de la bénédiction de l'aïeul, hein, qu'on a en tableau, en gravure, enfin, il l'a repris plusieurs fois, et on le trouve aussi comme scène chez des Juifs d'Afrique du Nord. Là, je crois que c'est vraiment très intéressant, parce que ça crée vraiment une unité, si vous voulez, dans sa vision, mais aussi sa capacité à s'adapter à des techniques différentes. Et heureusement, je dirais, on a eu cette série de pastels, dont une bonne partie est au musée de la Chaux-de-Fonds, qui vient, je dirais, éclaircir, animer l'œuvre parfois un peu austère de Moïse.
Alors, peut-être vous pouvez nous dire, très brièvement, pour finir, où est-ce qu'on peut voir des œuvres d'Édouard Moïse aujourd'hui ?
Il est difficile de les voir, sauf peut-être au musée d'art et d'histoire du judaïsme, et encore, il n'en montre pas tellement. Mais ils sont en général conservés dans ce qu'on appelle les réserves des musées. Parce que, on espère que la situation va changer avec le livre, mais pour l'instant, ce sont des tableaux qui n'étaient que rarement montrés, sauf, il faut quand même rappeler qu'une exposition assez récente a eu lieu à Nancy, à l'initiative du musée Lorrain. Et Moïse était largement représenté, notamment par la leçon de Talmud, qui est un immense tableau, magnifique, qui avait été restauré pour l'occasion, en tout cas, était superbe. Mais d'une façon générale, il est difficile de voir les tableaux de Moïse, faute de place dans les musées, c'est pas un auteur, jusqu'à présent, de premier plan, espérons qu'on le fera avancer un petit peu. La Chaux-de-Fonds bénéficie, conserve 35 ou 36 pastels dont on vous a parlé, mais je ne sais pas s'ils sont exposés. Jusqu'à une date récente, ils ne l'étaient pas.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle Jean Bernheim et Dominique Gérassé que vous avez donc écrit et conçu ce livre consacré à l'œuvre et à la vie du peintre Édouard Moïse aux éditions Esthétique du divers.
Voilà, donc peut-être un petit mot sur cette maison d'édition qui fait sortir justement des sujets un peu rares, mais qui est une toute petite maison et dont on trouve les livres plutôt dans les librairies spécialisées, entre autres, bien sûr, au musée d'art et d'histoire du judaïsme, sinon sur internet avec www.esthétique-du-divers.com.
Merci beaucoup. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Deux adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur internet, www.radio-rcj.info, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.